Alors, c'est le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Vous allez le découvrir dans la parole de Dieu, hein, également. Si nos mots à nous sont faibles, on l'a chanté dans ce chant, la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. La parole du Seigneur est puissante. Et je crois que, au travers du partage que nous avons, c'est un partage qui nous vient de la part du Seigneur, et c'est lui qui est à même de nous convaincre et de nous parler cet après-midi. Alors, on a parlé de royaume, effectivement, le royaume de Dieu, c'est ce qui est sur mon cœur pour partager ces instants avec vous. Alors, déjà une définition du royaume. Le royaume, c'est un état gouverné par un roi. Bon, ça, je pense que c'est pour chacun de nous évident. Gouverné par un roi ou une reine, un royaume, c'est également un territoire, hein. Voilà, c'est pour avoir la définition que nous en avons au travers de ce que nous vivons. Mais ce qu'on remarque, c'est que nous concernant à nous, nous avons une conception bien terre à terre de ce qu'est un royaume. Une conception bien terre à terre, et je dirais que cela est normal. C'est normal parce que toutes nos références que nous avons, nos références historiques, nos références contemporaines même de notre temps, sont autour de nous. Donc nous, quand nous parlons de royaume, ici-bas, quand les gens parlent du royaume, ils font référence à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils vivent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ont appris également. Notre pays, la France, était appelée autrefois le royaume de France. L'histoire de nombreux pays d'antan, on parle de royaume, si vous lisez la Bible, vous entendrez parler de royaume également, de royaume terrestre. Donc, dans l'esprit des disciples, dans les versets que nous avons lus, dans l'esprit des disciples, leur compréhension de ce qu'est un royaume, malgré les enseignements de Jésus, eh bien, était centrée pour eux aussi sur l'organisation d'un royaume terrestre. Quand Jésus parlait de royaume, eux, ils avaient leur référence à eux et ils pensaient royaume terrestre. C'est pour cela qu'ils ont interrogé le Seigneur Jésus un petit peu de cette manière. Dans l'esprit des disciples, eh bien, ils se représentaient un royaume centré sur l'organisation terrestre des choses. Comment ils vont s'organiser? Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Pour eux, c'était évident. Mais Jésus est venu apporter une autre dimension. Il est venu apporter une autre dimension et une autre situation géographique également. Il nous est parlé dans les Écritures, on l'a lu, du royaume des cieux. Ça, c'est l'évangéliste Matthieu qui nous parle du royaume des cieux. Et il nous est parlé également, selon l'évangile de Marc, du royaume de Dieu. Je pense que pour la plupart, vous avez déjà détecté ces particularités dans la parole de Dieu. Alors, si le royaume dont parle Jésus n'est pas de ce monde, le contexte du verset, c'est lorsque Jésus était en présence de Pilate. Et il leur dira, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors les gens, ils devaient s'interroger. Qu'est-ce qu'il raconte? Si le royaume dont parle Jésus n'est pas de ce monde, d'ici-bas, alors c'est quoi? C'est quoi ce royaume? C'est quoi? Qu'est-ce que ce royaume? S'il n'est pas à l'identique, comme les disciples le croyaient, s'il n'est pas à l'identique des royaumes de ce monde, c'est quoi ce royaume? C'est quoi ce royaume? Alors on pourrait se lancer dans une réflexion humaine. Mais je pense que tous les enfants de Dieu, quand ils veulent savoir ce que Dieu dit et ce que sont les choses de Dieu, ils consultent leur Bible. Amen. Faites ça vous. Non, vous faites comme ça. C'est comme ça que l'on apprend des choses sur Dieu. Donc le mieux dans ce cas-là, c'est pas de se lancer dans une explication ou une réflexion humaine, mais c'est d'écouter simplement ce que nous dit Jésus. Si on écoute simplement ce que nous dit Jésus, ce que les évangélistes ont rapporté au travers des paroles que nous trouvons dans les évangiles. Donc le mieux placé pour nous parler du royaume, c'est qui? C'est Jésus. Amen. C'est le mieux placé pour nous parler du royaume de Dieu. Pour parler du royaume de Dieu, il faut avoir une connaissance parfaite pour parler du royaume de Dieu. Il faut avoir une connaissance parfaite de ce qu'est ce royaume. Et qui est en capacité de le faire? Vous? Moi? Pas du tout. Qui est en capacité de nous parler du royaume de Dieu? Qui est en capacité de le faire? Qui est en capacité de le décrire? Qui est en capacité de l'expliquer? C'est quoi? Moi, je ne peux pas. Les religions en parlent. Elles parlent du royaume, également de Dieu. Les religions en parlent. Elles l'imaginent même. Elles vont au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Elles l'imaginent. Mais qui est suffisant? Qui est qualifié pour parler du royaume de Dieu? Sinon, Jésus lui-même. Dans Jean, chapitre 17, verset 5, voilà ce que dit Jean, ce que dit Jésus, pardon, dans l'évangile de Jean, au travers de cette prière, lorsqu'il se trouve en présence du Seigneur, de son Père, et il dit, « Maintenant, Père, révèle-toi même ma gloire. » Révèle-toi-même, il est en train de prier le Père, et il dit, « Révèle-toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » C'est cette prière qu'a fait Jésus. Tout cela pour nous dire que le mieux placé pour nous parler du royaume de Dieu, c'est bien Jésus lui-même qui était dans la gloire de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1er verset 15, vous trouvez ce verset qui nous dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel. » En Jésus, hein. C'est en lui que tout a été créé dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible, les trônes, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, en Jésus. Donc Jésus est vraiment le mieux placé pour nous parler du royaume de Dieu, pour nous parler du royaume des cieux. De par ces versets que nous avons lus, je pense que cet après-midi, eh bien, c'est pas d'avoir des opinions sur le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Nous avons besoin de certitude. Amen. On a besoin de certitude. Et le mieux placé pour nous en parler, c'est donc Jésus, comme en parlent ces versets. Pourquoi? Parce que Jésus va nous donner un point de vue de l'intérieur et non de l'extérieur. Quand nous parlons des royaumes, on voit ça de l'extérieur, mais Jésus lui en parle au travers des deux versets que nous avons lus de l'intérieur. Il était auprès du Père, il était dans la présence du Seigneur, dont il en parlait étant dans la gloire, dont il sait de quoi il parle. Et c'est cela, en fait, toute la difficulté. La difficulté, c'est que, comme on l'a chanté au travers de ce merveilleux chant, la difficulté, c'est comment décrire? Comment nous expliquer à nous humains? Comment nous expliquer la gloire de Dieu à nous humains? Comment nous expliquer la gloire de Dieu? Comment nous expliquer la sainteté de Dieu? Comment nous expliquer la présence de Dieu? Comment nous expliquer le royaume de Dieu? Comment expliquer? Comment décrire? Quels mots nous allons utiliser? Quelles comparaisons nous allons utiliser pour bien nous communiquer cette réalité spirituelle qu'est le royaume de Dieu ou le royaume des cieux? Et quel mot utiliser? L'apôtre Paul a été transporté. Il a été transporté parce que lui-même n'avait pas connaissance de cette étendue du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Mais voilà ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Il dit « Je connais un homme en Christ », il parle de lui-même, l'apôtre Paul, qu'il y a 14 ans, voilà une expérience qu'il a vécue, il y a 14 ans, il a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, dit l'apôtre, je l'ignore. Donc il ne sait pas très bien comment les choses se sont passées, mais Dieu le sait, c'est ce qui est important. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de les redire. L'apôtre Paul a vécu une expérience. Il était transporté dans la gloire de Dieu et ce qu'il a vu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, il n'a pas les mots pour nous le redire. Il n'a pas les mots pour nous l'expliquer. Les mots humains ne sont pas suffisants. Les mots humains ne sont pas adaptés pour comprendre ce qui se passe dans la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il est écrit « Ce que l'œil n'a pas vu et que ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ce qu'il aime. » Amen. Dieu l'a préparé pour ce qu'il aime. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce! Dieu veut nous révéler par son esprit ce qu'est le royaume de Dieu. Dieu veut nous révéler par son esprit comment sont les choses de Dieu dans son royaume. Alors voyons ce qu'en dit Jésus. Voyons ce qu'en dit Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus du royaume de Dieu? Dans Luc au chapitre 13, verset 20, Jésus dit encore. Voilà ce qu'il dit. Il dit, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu? À quoi je vais comparer le royaume de Dieu? C'est Jésus qui dit cela. Il dit, mais à quoi je vais comparer le royaume de Dieu? C'est l'interrogation que Jésus lui-même se pose. Et là, ce qui est important pour nous, comme pour les disciples en ce temps-là, c'est que les disciples vont être surpris. Ils vont être surpris des éléments de comparaison que Jésus va utiliser. Les disciples vont être surpris des éléments de comparaison que Jésus va utiliser. Les éléments de comparaison sont nombreux dans les évangiles qui nous parlent du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et là, on va en aborder juste quelques-uns. Et je vous invite à regarder partout. Chaque fois qu'il est question du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, quelle est la signification qui est née derrière donnée? Parce qu'au travers de ces paraboles, au travers de ces éléments que Dieu nous donne, eh bien, ces éléments vont nous servir pour développer notre connaissance des choses célestes. Lorsque vous allez entendre et lire une parabole sur le royaume de Dieu, ce sont des éléments, des points qui nous sont donnés pour comprendre, eh bien, pour avoir une connaissance des choses célestes. Moi, je ne peux pas voir les choses célestes. Mais Jésus nous a donné des éléments pour les comprendre et pour pouvoir les appréhender. Ils vont, au travers des éléments que nous trouverons dans la parole de Dieu, nous allons avoir des éléments pour développer notre connaissance. Notre connaissance. Aujourd'hui, on connaît un petit peu. Demain, on connaît davantage. On grandit dans la connaissance. Et l'enfant de Dieu est appelé à grandir dans la connaissance des choses de Dieu. Les éléments qui nous sont donnés dans la parole de Dieu, eh bien, sont également là pour parfois contrecarrer nos conceptions humaines. Parce que nous, on dit, oh ben, les choses sont comme ça dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Lisons dans la parole de Dieu. Regardons. Et vous verrez si réellement, eh bien, ce que vous pensez est en accord avec ce que Dieu dit. Si c'est cela, c'est merveilleux. Mais par contre, cela nous est donné parfois pour contrecarrer nos propres opinions. Les éléments qui nous sont donnés aussi pour guider nos vies, pour guider nos existences. Ils nous seront donnés au travers de ces paraboles également pour user de précaution, pour user de vigilance également dans notre vie chrétienne et surtout, au travers de tout cela, fonder notre foi dans la parole du Seigneur. Amen. Notre foi ne repose pas sur des discours de persuasion, comme dit l'apôtre de la sagesse ou autre. Non, il repose sur ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu nous dit, c'est un fondement sur lequel nous devons construire. Alors, ce que nous trouvons dans la parole, c'est le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Ce sont les termes qui ont été utilisés par deux évangélistes, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Et pour comprendre un petit peu cette particularité, nous avons deux versets qui nous parlent, je pense que vous connaissez, le grain de Sénévé. Vous connaissez? Il y a deux évangélistes qui en parlent, et Matthieu en parle de cette manière. Matthieu dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de Sénévé. L'apôtre Matthieu, l'évangéliste, utilise l'expression royaume des cieux. Et le Marc, lui, en parle de cette manière, et il dit, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de sénevé. Donc l'apôtre Marc, plutôt l'évangéliste Marc, nous parle du royaume des dieux, de Dieu. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les deux cas, il est parlé du grain de sénevé. Donc c'est le même événement. Les deux évangélistes nous parlent du même événement. Ils nous parlent du royaume de Dieu, mais chacun avec une particularité. C'est le même événement, mais il y a deux indications différentes. Alors, est-ce qu'ils se sont trompés ? Est-ce que ils ont peut-être pas bien compris les choses ? La différence d'expression, ce qu'il nous faut retenir, c'est qu'elle provient de l'auteur. L'auteur, c'est Matthieu d'un côté et Marc de l'autre. La différence d'expression provient de l'auteur et non du sens de la réalité profonde. La réalité, c'est le royaume de Dieu des cieux. Il n'y a pas de différence, en fait. C'est la même chose. Alors, on s'accorde à dire que, comme Matthieu s'adressait à des Juifs, et on sait que les Juifs avaient une vénération particulière pour le nom de Dieu. Quand on parlait de Dieu, quand les Juifs parlent de Dieu, quand ils écrivaient, ils changeaient de plume. Ils changeaient pour écrire avec... Ils ne l'abordaient pas. Ils l'abordaient avec tellement un grand respect qu'ils ne l'utilisaient même pas le mot pour en parler. C'est pour cela qu'on dit que Matthieu a utilisé l'expression « le royaume des cieux ». Ça expliquerait que Matthieu ait substitué ce mot, mais la conclusion, c'est que les deux expressions nous parlent de la même idée du royaume. Donc il n'y a pas de contradiction, même si les auteurs ont apporté leur appréciation sur l'idée du royaume d'une manière différente, l'idée même est semblable. C'est bien le royaume dont parle Jésus. Alors, nous allons être surpris. Nous allons être surpris parce que, comme je le laissais entendre, l'explication que Jésus va donner du royaume est surprenante. Elle est surprenante parce que, si l'on demande à des rois ici-bas, si l'on demande à des personnalités qui dirigent des royaumes, de leur parler de leur royaume, si l'on demande à des gens de parler de leur royaume, ils nous parleront de quoi ? Ils vont nous parler de la gloire, de leur propre gloire. On fait des défilés sous les Champs-Élysées pour montrer la force. Voilà de quoi ils parlent. Ils parlent de la force, ils parlent de l'étendue de leur royaume ici-bas. Ils parlent de leur richesse. Jésus aurait pu faire pareil. Il aurait pu parler du royaume dans des termes de gloire, de puissance, de richesse, de grandeur, d'étendue. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas du tout fait de cette manière pour nous expliquer le royaume de Dieu. Il aurait pu le faire, mais il veut que nous comprenions, et c'est ça qui est important, il veut que nous comprenions ce qu'est vraiment son royaume, ce qu'est vraiment son royaume. Il veut nous communiquer ce qu'est vraiment le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Donc là, on est dans la communication. On est dans la communication. À quoi comparerais-je, dit Jésus, le royaume de Dieu ? On est dans la communication, on est dans la compréhension des choses célestes. Et vous savez que l'approche sera totalement différente de notre façon humaine de concevoir un royaume. La façon dont Jésus va en parler va à contresens de nos sens physiques. Nous entrons dans une nouvelle dimension. Quand nous parlons du royaume de Dieu, du royaume des cieux, on entre dans une nouvelle dimension, avec des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles avec un endroit où la pensée de Dieu est révélée et non nos pensées humaines. Et dans cette direction-là que Dieu veut nous diriger. C'est dans ce sens-là que Dieu veut nous faire comprendre ce qu'est son royaume, ce qu'est le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Il veut nous montrer la direction, comment. Où ? La première des choses qu'il veut nous montrer, c'est voir le royaume de Dieu. Et je pense que nous sommes tous concernés. Voir le royaume de Dieu. Ici-bas, si je veux aller au Royaume-Uni, par exemple, Si je veux aller en Grande-Bretagne, si je veux aller au Royaume-Uni, je sais vers où aller. Je sais qu'il faut prendre le train, le bateau, l'avion, je ne sais pas. Je sais vers où il faut aller. Mais le royaume de Dieu, où est-il ? Où est-il ? Où est le royaume de Dieu ? Vers où aller ? Vers où aller ? Dans Luc, au chapitre 19, verset 11, il est dit ceci, lorsque Jésus parlait des choses de Dieu. Il dit, c'est concernant l'épisode de Zachée que vous connaissez certainement, ils écoutaient ces choses et Jésus, écoutez bien, Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. On croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. Donc, vous voyez, dans les gens qui entouraient Jésus, il y avait les idées les plus folles qui circulaient. Ils approchaient de Jérusalem et les gens, le royaume de Dieu va apparaître, le royaume de Dieu va apparaître. C'est ce qu'ils étaient en train de parler. Ils pensaient de cette manière. Donc, les idées les plus folles se propageaient, mais voilà ce qu'en dit Jésus. Il dit Jésus dans Luc au chapitre 17, verset 20, et il dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et Jésus va leur répondre. Il va leur dire, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper nos regards. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper nos regards. Alors les gens, ils attendaient une date. Quand est-ce qu'il va venir, le royaume de Dieu ? Ils attendent une date et Jésus leur répond par la manière. Voilà comment il va arriver, par la manière. Et il ne vient pas de manière à frapper les regards. Les gens étaient dans des attentes ici-bas. Jésus dit non, 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 le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper les regards. Ils attendaient également, ces gens-là, autour de Jésus, un lieu, comme ils approchaient de Jérusalem. Ils se sont dit, c'est là que ça va se passer, le royaume de Dieu. C'est bien sûr dans cet endroit que les choses auront lieu. Ils attendaient un lieu physique. Où est-il ce royaume ? Où est ce royaume ? Eh bien, Jésus va montrer la direction. Il va leur montrer vers où il faut aller, vers où il faut regarder. Et ce qui est surprenant, c'est que dans Luc, au chapitre 10, verset 9, Jésus a envoyé ses disciples en disant « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur. » Guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Donc, ils attendaient, où est-ce qu'il est ce royaume ? Comment est-il ? Il est au milieu de vous, il s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et comment voyons-nous que le royaume de Dieu s'est approché de vous ? Guérissez les malades. Proclamez la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, vous voyez qu'on est là à contre-courant de nos logiques à nous, de notre façon de concevoir les choses de Dieu concernant le royaume d'une manière terrestre. C'est à contresens de notre logique. Là, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui vient vers nous en nous apportant la paix, le pardon, la guérison. C'est Dieu qui vient vers nous. Alors comme les 70 disciples qui ont été envoyés pour proclamer ce royaume de Dieu et dire « le royaume de Dieu s'est approché de vous », peut-être que parmi nous cet après-midi, certains ont croisé la route des messagers de l'Évangile, où ils ont entendu ce que j'ai déjà dit dans la parole de Dieu plusieurs fois. Et ils attendent peut-être les choses de Dieu d'une manière qui leur est personnelle, propre, selon leur conception. Jésus nous ramène vers sa parole. Il nous ramène vers sa parole et il nous dit cet après-midi que plusieurs fois nous avons croisé les messagers de l'Évangile. Mais est-ce que nous allons les entendre ? Est-ce que nous allons les recevoir ? Et parfois, cela remet en cause nos propres convictions sur la façon dont nous devons rencontrer Dieu. On pense que Dieu, moi, si je veux rencontrer le Seigneur, je veux que ce soit de telle manière, de telle situation. Vous savez, bien souvent, ce qu'on imagine, c'est pas comme ça que les choses se passent. Quand Dieu intervient dans nos cœurs, ça se passe à sa manière et non pas selon ce que nous nous pensons ou selon la nôtre. Donc, n'imaginons pas notre façon de rencontrer Dieu ou de concevoir les choses de Dieu ou le royaume de Dieu, mais laissons-nous porter par les paroles du Seigneur qui nous demandent à nous de le recevoir. Le royaume de Dieu s'approche de nous. Et quand nous parlons, quand nous prêchons la parole de Dieu, le royaume de Dieu s'approche de nous. Amen. Il s'approche de moi, il s'approche de toi, il s'approche de nous. Donc ça c'est comment, eh bien, voir le royaume de Dieu. Donc c'est pas avec nos yeux physiques, mais c'est vraiment selon ce que Jésus nous en montre cet après-midi. Il s'approche de nous. Et ne nous attendons pas à avoir des choses dans nos yeux qui vont manifester et dire « c'est ça le royaume de Dieu », pas du tout. Donc la première façon, c'est de voir le royaume de Dieu. La deuxième, c'est d'entrer dans ce royaume. Parce qu'on peut voir les choses de Dieu, mais entrer, c'est encore autre chose. Entrer dans le royaume de Dieu. Ici-bas, si je veux aller, je reviens au Royaume-Uni, eh bien, si je veux aller là-bas, qu'est-ce que je fais? Je présente mon passeport. Et on va, en principe, me laisser rentrer. Si je vais aux États-Unis, on présente d'autres documents pour pouvoir rentrer. Si je vais au Canada, c'est pareil. Il faut justifier d'un déplacement. Il y a toutes sortes d'obligations pour pouvoir entrer dans un pays, entrer dans un royaume. Et là, je présente ces documents et je suis autorisé à rentrer dans le royaume en question, ici-bas. Mais dans le royaume de Dieu, comment je rentre? Comment je rentre? Dans le royaume de Dieu, on n'est pas visiteur. On ne visite pas le royaume de Dieu. On n'est pas visiteur. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas de passage. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas non plus prisonnier. Dieu ne nous oblige pas. On n'est pas prisonnier dans le royaume de Dieu. Pas du tout. Si l'on est accepté, on choisit d'y vivre. Amen. On choisit d'y vivre, de partager sa foi, de vivre avec son Sauveur. On choisit d'y vivre, on choisit de s'y installer et d'approfondir notre foi. Alors encore une fois, les conditions d'accès sont à l'inverse des modalités terrestres. Les modalités terrestres sont des papiers, toutes sortes de choses. Mais ici-bas, si les gens veulent rentrer, eh bien, ça sera la compétition, ça sera le pouvoir. Si j'ai les bons papiers, ben je pourrai rentrer. Parfois, c'est des trafics pour rentrer dans des pays où c'est de l'argent. Mais dans le royaume de Dieu, comment j'y rentre? Dans le royaume de Dieu, l'entrée est conditionnée par, j'en ai retenu trois aptitudes suivantes. D'abord, pour entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, il faut le chercher. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il faut un désir profond. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Ça doit être notre désir profond. J'ai pas besoin de carte, j'ai pas besoin de papier, mais le Seigneur veut un cœur, il veut notre cœur. S'il y a un désir profond, alors je suis en marche vers ce royaume. Le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, il trouve un trésor, et qu'est-ce qu'il fait? Il va le cacher. Il va le cacher dans le champ, et dans sa joie, il est tellement content de l'avoir trouvé, qu'il vend tout ce qu'il a, et qu'est-ce qu'il fait? Il achète le champ. Pourquoi? Parce que s'il achète le champ, il prend possession également du trésor qui est dans le champ. Donc vous voyez tout cela pour dire que il faut un désir profond. Et ça nous fait interroger, nous. Quelle est la mesure de mon empressement? Eh bien, pour entrer, pour vivre dans le royaume de Dieu. Quelle est la mesure de mon empressement? Donc, un désir profond, également une humilité. Dans Matthieu chapitre 19, verset 14, Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les en empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux... » Et pour ceux qui leur ressemblent, c'est encore une autre facette, un autre éclairage que Jésus nous donne. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, qui ressemblent à ces petits-enfants. Alors ici, ce qui est retenu, c'est la confiance. La confiance et la foi des enfants qui est mise en avant. Parce que les enfants, c'est pas toujours comme ça. Hein. Les enfants, parfois, eh bien, ils ont leur caractère, leur comportement. Mais là, ce que Jésus met en avant, c'est la foi et la confiance que les enfants ont à leurs parents. Ils croient. Si vous leur dites quelque chose, ils croient ce que vous leur dites. Ils croient. Et là, c'est ce que Jésus veut mettre en avant, c'est l'humilité. L'humilité, il nous faut nous approcher de Jésus pour entrer dans ce royaume avec un désir profond et une humilité. Une humilité. Nous ne pensons pas être les plus forts et que ce soit à nous de rentrer avec force dans le royaume, pas du tout. C'est avec foi et confiance. C'est également avec repentance. Pour entrer dans le royaume, Matthieu chapitre 4, verset 17, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Voilà, c'est le message qu'il adressait. Le royaume de Dieu est proche. Donc, tu n'es pas encore dedans tant que tu ne t'es pas repenti. Quand tu t'es repenti, tu as fait un pas de foi et tu es avancé. Donc, la repentance est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. La repentance, demander pardon à notre Dieu, on ne peut pas entendre, comprendre et rester à l'extérieur. Pour entrer dans le royaume du Seigneur, eh bien, c'est repentance. Et la repentance, c'est la conversion à Dieu. C'est-à-dire, on fait demi-tour, on se tourne résolument vers le Seigneur. Et ce demi-tour s'appelle une conversion. On se tourne vers le Seigneur pour, eh bien, comprendre que c'est lui que nous voulons suivre et que nous voulons aimer. Et nous avons compris combien nos péchés l'ont porté à la croix. Et ensuite, c'est pas suffisant. Humilité, repentance et également obéissance. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Vous voyez comment toutes ces pierres s'ajoutent les unes aux autres pour nous donner de comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. La description au travers de ces paraboles est vraiment une richesse incomparable. « Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. » La conversion, demander pardon à Dieu, c'est une chose. Mais ça ne sera pas encore suffisant. Il faudra encore continuer à marcher avec le Seigneur. Marcher dans la foi, dans l'Église, dans le baptême d'eau par immersion, continuer à avoir une vie de l'Esprit. Tout cela, c'est la marche de l'enfant de Dieu. Donc vous voyez qu'on est loin, on est loin de nos façades religieuses. De nos façades religieuses, on est loin de notre propre justice, de notre orgueil, de nos mérites. On est loin de notre rébellion contre Dieu. Et la rébellion contre Dieu, ça caractérise bien notre nature humaine, qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes. La marque de notre péché et de notre éloignement de Dieu. Tout cela, on en est bien loin. Il nous faut suivre pour voir, c'est une chose, pour entrer dans ce royaume, eh bien, un désir profond, une humilité grande, une repentance et une obéissance. Voilà le chemin que Dieu nous trace au travers des paraboles et des versets que je suis en train de vous lire. Donc, voir entrer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Parce que le royaume de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, certains diront, mais après tout, bon, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais pourquoi changer de religion, après tout? Pourquoi changer? Ma religion me suffit. Je pratique, je fais certaines choses qui certainement plaisent à Dieu. Mes convictions, quelqu'un dira, eh bien, valent bien les vôtres. Mes qualités humaines ou autres valent bien vos propres qualités à vous, eh bien, chrétiens. Et peut-être, eh bien, que certains diront, après tout, c'est quoi concrètement le royaume de Dieu? C'est quoi concrètement le royaume de Dieu? C'est quoi concrètement ce royaume s'il n'est pas concrètement visible? Certains, on veut voir les choses. S'il n'est pas concrètement visible, si ce royaume n'est pas bien délimité, comment l'appréhender? Comment le vivre? C'est peut-être toutes sortes de questions comme ça qui montent dans nos cœurs. C'est comment vivre au quotidien? Eh bien, la bonne nouvelle du royaume, c'est extraordinaire. La bonne nouvelle du royaume, la voici. Dans Luc au chapitre 17, verset 20, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. » Et il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. » C'est une autre version une variante de celle que j'ai dit tout à l'heure. On ne dira pas, dit Jésus, le royaume de Dieu, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire. On dira, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans son royaume. Amen. Nous sommes dans son royaume. Nous vivons dans son royaume quand nous sommes dans la présence de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus était au milieu de son peuple. Quand Jésus est au milieu de son peuple, nous sommes dans son royaume. Amen. Nous sommes dans son royaume, dans sa présence. La bonne nouvelle, c'est que la présence de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes dans sa présence. Quand nous sommes dans sa présence, nous sommes dans son royaume. C'est la présence de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu également. C'est l'œuvre de Dieu, le salut, la guérison. C'est l'œuvre de Dieu. Jésus parcourait, dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, et il prêchait la bonne nouvelle du royaume, et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est pas seulement la prédication, c'est la prédication. Il prêchait la bonne nouvelle, et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, le cadeau de Dieu à recevoir, dans Luc au chapitre 18, verset 17, il est dit, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » C'est important, ça. « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Vous avez vu, c'est pas la peine d'avoir des études supérieures, des masters, et à n'en plus finir, qu'on ajoute dans notre catalogue de formation. Mais il nous faut avoir la foi d'un petit enfant. La foi, la confiance d'un petit enfant. Et un petit enfant, il dit, vous leur proposez quelque chose, ils vont vous dire, oui, je le veux, c'est tout. La parole de Dieu nous propose un merveilleux cadeau. Un merveilleux cadeau, le voulons-nous? L'acceptons-nous? Quand nous avons accepté et été accepté dans le royaume de Dieu, nous avons changé de propriétaire. Nous sommes passés des royaumes spirituels de ce monde, de l'esprit de ce monde, nous sommes passés au royaume de Dieu et au royaume de l'esprit de Dieu, de la vie de Dieu. Donc c'est un merveilleux cadeau que Dieu veut nous accorder, la bonne nouvelle de son royaume. Donc voir le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, vivre cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, et enfin, c'est quoi ma vie dans ce royaume? C'est quoi ma vie? Parce qu'on comprend fort bien, quand nous sommes concrètement dans un royaume terrestre, on comprend bien ce que c'est que vivre dans un pays, un royaume. Mais on a peut-être un petit peu plus de mal à réaliser quand on parle d'un royaume tel que nous le présente Jésus, tel qu'il nous est présenté dans la parole de Dieu. C'est quoi notre vie dans ce royaume? Eh bien, nous sommes appelés à vivre et à réaliser son impact au quotidien. Au quotidien. Au quotidien, tous les jours de notre vie, nous sommes appelés à réaliser, eh bien, l'impact de ce royaume dans notre vie. Vous allez me dire, mais c'est compliqué, ce que vous me dites. C'est compliqué. Et pourtant, c'est simple. C'est simple, pourvu que nous soyons attentifs et volontaires à ce que Dieu nous demande. C'est quoi ma vie dans ce royaume? Il dit, dans Luc au chapitre 13, verset 18, il dit, « À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ?» Je l'ai cité tout à l'heure. « À quoi le comparerais-je » Il ressemble à une graine, là, sa fameuse graine de sénevé, c'est une graine de moutarde. Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse et il devient grand, un grand arbre. Et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Eh bien, c'est quoi cette vie? C'est quoi ma vie dans ce royaume? C'est cette graine qui un jour est tombée dans nos cœurs. Pour les uns, c'est il y a quelque temps. Pour d'autres, il y a plusieurs années. Pour d'autres, il y a plusieurs dizaines d'années. Mais l'important, c'est que cette graine qui est tombée, au début, elle était petite. Ça a fait un petit arbre. Et ça a grandi, ça a grandi. C'est ça, ma vie. Ma vie dans le royaume, c'est ça. C'est laisser pousser cette graine qui a été déposée dans nos cœurs, la semence de Dieu. Cette graine, c'est la semence de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus. C'est la vie de Dieu en nous. C'est la vie du Seigneur Jésus dans chacune de nos vies. C'est connaître la puissance de sa résurrection, dit un autre passage de l'Écriture. Il dit « Vous étiez morts spirituellement par vos offenses, mais Jésus nous a rendus à la vie. » Jésus nous a rendus à la vie. Cette semence, cette petite semence, qui est petite au départ, mais ça devient une explosion de vie. Amen. C'est ça la vie dans le royaume de Dieu. Quand elle est plantée dans notre cœur, c'est le jardin de Dieu, notre cœur. Ça devient le jardin de Dieu. Il a fait un grand ménage. Nos péchés ont été pardonnés. Notre vie a un nouveau sens. Nous allons dans une nouvelle direction. Le grand ménage est fait. Alors, toutes les conditions sont réunies pour que cette semence, elle pousse. Elle pousse, elle grandit et elle devient un grand arbre. Elle se construit. Et il est dit, les oiseaux du ciel habitent ses branches. Peut-être avec le temps, peut-être vous avez remarqué quand les oiseaux sont dans des arbres, vous avez entendu tout ce qui se passe, ça piaille de partout, ça chante, il y a du bruit, ça fait du bruit. C'est ça, la vie de Dieu, c'est une vie de profusion, c'est une animation dans notre cœur de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre du Seigneur. Ce que Dieu veut pour nous et sur laquelle nous devons nous interroger, c'est cette semence. Est-ce qu'elle pousse ? Est-ce qu'elle se développe ? Est-ce qu'elle grandit ? Est-ce que nous ne l'empêchons pas de grandir ? Quand la semence tombe dans nos cœurs, elle produit la vie. C'est naturel, c'est naturel. Alors, la semence de Dieu est-elle dans notre vie ? Ou alors, est-ce que c'est la semence du monde ? La semence du monde, où je m'aperçois, je regardais un reportage sur la télé, où il parlait justement des semences, et il parlait des semences hybrides. Peut-être vous avez entendu parler des semences hybrides. Ces semences qui sont données aux producteurs, aux agriculteurs, qui sont vendues aux agriculteurs. Et ces semences, elles ne servent qu'une seule fois. Une seule fois. On sème la semence une seule fois. Pourquoi ? Parce que si on réutilise la semence qui a été semée, si on reprend cette semence, si avec les fruits on refait des graines, eh bien, la nature va produire des ratés. Les semences, le résultat, les fruits, ne seront pas ce qui est attendu. Et vous savez que la semence, ça coûte cher. Il y avait un exemple où, en Israël, justement, ils produisaient des semences. Savez-vous combien le kilo était vendu de la semence ? Des semences qui vont être utilisées et revendues, 400 000 euros le kilo. Quand même cher, hein ? 400 000 euros le kilo. Donc, pour vous dire que c'est rentable, un kilo de semence. Mais seulement, elle ne sert qu'une fois. Elle ne sert qu'une fois. Alors, quand on utilise ces semences hybrides, eh bien, ces semences qui ont été modifiées, elles vont produire des fruits uniformes. Elles vont produire des fruits de belle taille. Elles vont produire des fruits de belle couleur. Des fruits qui sont parfaits en apparence. De belles tomates et tout. Mais quand vous les mangez, c'est plus pareil. Quand vous les mangez, on s'en aperçoit, ben le goût, ça vaut rien du tout, ça a aucun goût, ça a aucun goût. C'était beau pourtant, c'était très beau, mais ça n'a aucun goût. Alors c'est vrai que ces semences, elles sont exemptes de maladies. Si on fait des semences hybrides, c'est pour lutter contre les maladies qu'elles peuvent avoir. C'est pour lutter contre les maladies, mais par contre, ce qu'on vous dit pas, c'est que, ben on le sait maintenant, c'est que c'est couvert de pesticides. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais vous voyez, ça, c'est la semence utilisée par le monde. Utilisée, des semences hybrides. La semence de Dieu, c'est autre chose. C'est pas une semence hybride. Elle n'est pas trafiquée. Elle ne vient pas du monde. Elle vient du ciel. Elle nous est apportée par les évangélistes, par Jésus lui-même. Est-ce que la semence de Dieu est tombée dans notre cœur ? Est-ce que cette semence-là, et pas la semence du monde, est tombée, eh bien, cette semence de Dieu dans notre cœur ? Est-ce qu'elle se développe ? Voilà autant de questions que je voudrais que nous réfléchissions. Est-ce qu'elle produit du fruit ? Est-ce que cette semence, elle transforme ta vie ? Est-ce que cette semence, eh bien, elle transforme ton environnement ? Parce qu'on l'a vu, ce grand arbre, il y a toutes sortes d'effets qui se produisent. Est-ce que nous, quand enfants de Dieu, nous vivons, eh bien, nous produisons également des effets autour de nous et qui sont en bénédiction pour ceux qui nous entourent, notre famille, nos enfants, autour de nous, dans notre travail. Vous voyez, il y a de nombreuses paraboles dans l'Écriture qui nous parlent du royaume de Dieu. C'est autant de tiroirs que je vous invite à ouvrir, frères et sœurs, chers amis, pour comprendre, eh bien, tous les aspects de cette réalité qu'est le royaume de Dieu. Donc, la richesse des paraboles, elle nous ouvre notre esprit. Elle nous donne de comprendre les choses selon Dieu et non selon nous. Il ne faut pas limiter Dieu par nos façons de concevoir les choses. N'enfermons pas le royaume de Dieu dans nos schémas également, en pensant que les choses doivent être ainsi selon ce que nous le concevons. Dieu fait des œuvres qui nous dépassent et qui dépassent notre imagination. Amen. Ne retenons pas qu'une facette de la parole de Dieu. Par exemple, il y avait ceux qui ont entendu cette parabole qui disait que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Ces gens-là ont entendu, ils ont dit que le royaume de Dieu, c'est semblable à du levain. Alors ils ont dit, le royaume de Dieu, c'est comme ça, c'est semblable à du levain. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres qui ont dit, eh bien, que le royaume, d'autres paraboles, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il y a une autre signification. Vous voyez, il ne faut pas s'enfermer dans un des aspects de la parole de Dieu. Elle est suffisamment riche pour nous montrer ce que sont et ce que doivent être les choses selon Dieu. Voici, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Chers amis, frères et sœurs, ayons une perception panoramique de chaque facette qui nous parle de toutes ces paraboles concernant le royaume de Dieu et le royaume des cieux, sont autant d'éclairages qui nous sont donnés pour que, grâce à la Bible, eh bien, nous puissions comprendre ce qu'est le royaume. Je n'ai pas beaucoup développé, en fait, cet après-midi. Je n'ai parlé juste que de voir, d'entrer, de connaître, d'expérimenter, de vivre quelques aspects. Mais si vous lisez vous-même, eh bien, les versets concernant le royaume de Dieu et le royaume des cieux, vous allez encore vous-même découvrir de grandes et de belles choses. Amen. Que Dieu soit béni. Cette bonne nouvelle du royaume, dit Matthieu, elle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Amen. Que Dieu nous aide à réaliser ce qu'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et je vous invite aussi également à faire vous-même vos propres découvertes. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. C'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui guide nos pas. C'est elle qui nous enrichit. C'est elle qui réforme également nos pensées, nos voies. Donne-nous de voir les choses comme toi tu les vois, Seigneur. Et non pas comme nous les pressentons ou voyons. Seigneur, par ta parole, tu nous as enrichis cet après-midi. Si quelqu'un, eh bien, est en recherche de tes voies, si quelqu'un veut progresser dans tes voies, connaître ce qu'est pleinement le royaume, que nous puissions nous confier en toi et nous attendre à toi. Merci pour la bonne nouvelle du royaume des dieux. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni.